Depuis le début de l'ère industrielle, le développement de l'agriculture intensive et la standardisation des productions a eu pour effet de réduire considérablement la diversité des variétés de semences que l'on retrouve dans nos assiettes. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, on estime aujourd'hui à 75% la perte de la biodiversité dans le monde des plantes cultivées. C'est donc dans ce contexte de privatisation du vivant que des associations se battent pour revendiquer le droit de semer librement des variétés anciennes ou traditionnelles appartenant au domaine public. Je reçois dans un instant Blanche Magarinos-Rey. Elle est avocate au barreau de Paris, spécialiste dans le droit de l'environnement. Elle a par exemple défendu l'association Cocopelli qui conserve et distribue une vaste collection de variétés traditionnelles. On en parle donc avec elle. Et vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions au sujet des semences dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur la page de la Terre au Carré. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans un instant.
Et je vous parle de la grande distribution aujourd'hui qui fait des efforts pour essayer de mieux manger. Alors, est-ce que c'est sincère? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va voir.
Vous avez enquêté dans la deuxième demi-heure le reportage de Guy Van Til autour du GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Il a rencontré pour nous une mamie zadiste et une pasteur radicalisée. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Noël, un auditeur du Haut-Doubs qui est président de l'association Les Gazouillis du Plateau. Et puis enfin, notre invité découverte est le photographe Francis Latreille qui publie Les Derniers Peuples des Glaces aux éditions Gallimard. Valérie Ayestaraï réalise cette émission avec à la technique aujourd'hui Philippe Duclos et Tristan Gratalon.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Sur ces 3 hectares, Benoît Redan produit des tomates, des concombres ou des patates douces. Et aujourd'hui, avec les nouvelles règles européennes, il pourra commercialiser librement ses semences paysannes.
Ça permettra de cultiver des variétés interdites, de les réadapter, de les améliorer. Alors que jusqu'à présent, tout ce patrimoine semencier était oublié.
Un patrimoine qui s'est appauvri, uniformisé, car les grandes firmes semencières ont privilégié des variétés plus productives. Catherine Andrian, elle, a choisi de réhabiliter des légumes d'autrefois. Objectif, rassembler des semences venues du monde entier.
En Belgique, en tous les cas, il y a plus de 90% de la biodiversité cultivée qui a disparu. Et donc grâce à des jardiniers amateurs, des associations, on a pu retrouver une vingtaine de variétés.
Sauver les variétés anciennes, une pratique plébiscitée aussi par les consommateurs.
Bonjour Blanche Magarinos-Rey, bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Vous êtes donc avocate au bureau de Paris, spécialiste du droit de l'environnement. Vous avez défendu, donc je le disais, l'association Cocopelli devant les juridictions françaises et la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez suivi également de très près les évolutions récentes de la législation européenne sur le commerce des semences et sur l'agriculture biologique. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre, Semences hors la loi, la biodiversité confisquée, qui est sorti en 2015 chez Manifesto. Alors juste une réaction au reportage qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a un cas particulier là, qui concerne le bio, sur l'utilisation des semences anciennes.
Oui, tout à fait. Donc, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont voté en avril de l'année dernière un nouveau règlement sur la production biologique qui autorise la commercialisation de ce qui a été appelé dans le texte le matériel hétérogène biologique, c'est-à-dire en fait les semences de variétés traditionnelles qui ne répondent pas aux critères d'homogénéité qui sont imposés par le catalogue officiel. Donc, il permet la commercialisation de toutes ces variétés du domaine public qui ne sont pas homogènes, qui ne sont pas inscrites au catalogue et qui donc ont été rendues illégales par la législation sur le commerce des semences.
Mais
c'est
ça,
donc une grande première.
C'est une très grande nouvelle quand même en soi.
Oui, c'est une très grande nouvelle. Bon, c'est une petite fenêtre qui a été ouverte là dans le secteur de la production biologique spécifiquement et on espère que cette petite fenêtre va donner lieu à l'ouverture d'une grande porte pour toute l'agriculture.
Donc ça, c'est pour 2021, la mise en pratique justement pour le bio, on le répète encore. Comment est-ce qu'en tant qu'avocate, vous êtes intéressée, vous, à la question des semences?
J'ai rencontré le président de l'association Cocopelli, c'est comme ça en fait, donc un contact humain et sympathique. Et l'association m'a confié progressivement les différents dossiers dans lesquels elle s'opposait à l'État français d'une part, à l'industrie semencière d'autre part. Et donc j'ai mené avec cette association plus de 10 ans de procédures judiciaires très longues qui nous a menés, comme vous l'avez dit, devant la Cour de cassation en France, devant les juridictions civiles aussi à Nancy par exemple, et puis devant la Cour européenne de justice, Cour de justice de l'Union européenne. Donc des procédures fort longues qui... qui ont bien fait connaître la thématique semence, oui. Qui ont bien fait connaître l'association Cocopelli aussi, le travail qu'elle fait, et qui ont fait progresser donc ce sujet dans la société, auprès des politiques aussi. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à si bien la populariser, cette question, oui. Que aujourd'hui on peut dire que les politiques sont sensibles au sujet, ils le oui. connaissent, et que la législation peut évoluer.
Si on pouvait résumer finalement ce sujet, et là où ça pose problème, mm-hmm. c'est une histoire de confiscation du vivant et du domaine public par les semenciers, les grandes multinationales du domaine.
Oui, on peut dire ça, en effet. Les grandes multinationales se sont aménagées un secteur et puis une législation qui les favorise. Et elles ont donc organisé la mise sur le marché exclusive de leur création variétale grâce ouais. à la législation. Création variétale qui, dans le même temps, sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. Donc, la mise en place de la législation sur le commerce des semences a été concomitante avec la création d'un régime de propriété intellectuelle. Et c'est comme ça que seules les créations variétales de l'industrie semencière sont autorisées à la vente. Et tout ce qui n'est pas considéré comme nouveau standard et inscrit au catalogue est interdit à la vente. Ouais. Et tout ça, en fait, représente les variétés de notre domaine public, de notre patrimoine commun.
Alors ça, c'est typique à la France aujourd'hui, ou ça concerne absolument tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme semences sur la planète, hein ?
Non, ça ne concerne quand même pas toute la planète, mais ça concerne toute l'Europe. Donc la France a été très pionnière dans la mise en place de cette législation.
Historiquement, ça commence dans les années 60, c'est ce que vous racontez finalement dans votre livre.
Oui, tout à fait. Donc avec la rigueur qu'on lui connaît aujourd'hui, la législation, elle a été mise en place en France d'abord, dans les années 60. Il y avait eu des essais avant, dans les années 1920-1930, avec des échecs. Voilà, une mise en place en France qui ensuite a été transposée à l'échelle européenne. Et donc cette législation très restrictive a été mise en place en Europe et ensuite donc en Europe, dans tous les États membres de l'Union européenne. Et puis c'est vrai que l'Union européenne, bon, elle fait la promotion de sa législation à l'extérieur aussi, dans le cadre des échanges commerciaux. Et donc il y a quand même pas mal de pays sur la planète qui ont ensuite adopté une législation très similaire dans la législation nationale, avec la mise en place d'un catalogue, le contrôle des variétés mises sur le marché, etc. Ouais.
En France, donc, c'est l'État, clairement, qui a favorisé les semenciers, justement, à privatiser, au fond, le vivant et ses semences dans un catalogue officiel. Hein. C'est ça dont il s'agit. Hein.
Oui, tout à fait. C'est l'État français, et je dirais même, en fait, c'est l'État vichyste, hein, parce que ce carcan législatif a été mis en place à l'époque vichyste.
Ouais. Et c'est poursuivi avec De Gaulle. Hein, ensuite.
Et c'est poursuivi avec De Gaulle, c'est intensifié même avec De Gaulle, et à l'époque c'était l'administration seule qui opérait, sans aucune validation législative. Cet abus réglementaire, si on peut dire, ensuite a été validé par la législation européenne.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on veut utiliser des semences traditionnelles, donc issues du domaine public ? C'est absolument interdit, on a le droit dans certains cas de le faire.
Alors, c'est pas tellement l'utilisation qui est concernée, c'est plutôt la vente, donc la mise sur le marché de ces variétés non inscrites au catalogue. Donc, on est passible de poursuites pénales. Et ça a été le cas de l'association Cocopelli, qui s'est retrouvée devant les tribunaux pénaux pendant très longtemps, jusqu'à la décision de la Cour de cassation qui l'a condamnée à payer une amende très lourde de plus de 17 000 euros. Voilà, donc des poursuites pénales, et puis la menace, bien sûr, aussi de voir cesser les activités, fermer la boutique. Voilà, c'était un peu l'intention de l'industrie semencière de faire fermer sa boutique à l'association Cocopelli à l'époque. Bon, ça n'a pas fonctionné. Hein. Mais voilà, donc une législation très restrictive avec des sanctions pénales.
Qu'est-ce qui se passe finalement aujourd'hui quand on se prive comme ça de ces semences anciennes, traditionnelles ? Vous expliquez bien que finalement c'est aussi se priver d'une biodiversité très importante, d'un patrimoine, mais aussi du goût, du plaisir, hein, de tout un tas de fruits et légumes qu'on ne pourra jamais consommer au fond. Hein.
Exactement, on a perdu, je pense, énormément de notre mémoire culinaire en voyant disparaître toutes ces variétés. Et puis bon, c'est le goût, bien sûr, auquel on est très attaché en France, mais c'est aussi la qualité nutritionnelle. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On a énormément perdu en qualité nutritionnelle avec les variétés modernes qui sont commercialisées aujourd'hui. Et parfois, bon, selon les minéraux, les vitamines ou les protéines que vous examinez, vous êtes obligé, pour avoir la même qualité nutritionnelle que dans les années 1930, 1940, 1950, de consommer 10 fois ce que vous consommeriez à l'heure actuelle. Donc par exemple, pour l'élément cuivre, si vous vouliez avoir la même teneur en cuivre que dans une tomate des années 1930, vous devriez en consommer 10 aujourd'hui, ce qui n'est pas faisable en définitive. Et donc, on fait face aussi à un problème de carence alimentaire importante, qui est due en partie aussi à cette question des semences et leur appauvrissement génétique.
On en parlera certainement dans un instant avec les auditeurs de la Terre au Carré, mais la législation irait plutôt dans le bon sens en ce moment. En tout cas, il y a des indicateurs qui sont quand même pas si mauvais que ça. Ce sera l'occasion d'en discuter avec vous, autant du point de vue français qu'européen. Et puis ce livre, donc Semences hors la loi, que vous signez Blanche Magarino-Sret. Vous êtes notre invitée cet après-midi et toutes les questions au 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert avec aujourd'hui, Camille, la transition écologique et la grande distribution, justement.
Oui, vous savez que les hyper et supermarchés se mettent au vert, eux aussi, depuis plusieurs années, en particulier en ce qui concerne la nourriture qu'ils vendent. Il y a de plus en plus de bio, voire de local dans les rayons. La moitié des 9 milliards d'euros de produits bio achetés en France l'an dernier l'ont été dans la grande distribution, qui n'a pourtant pas une image très éco-compatible, disons, à en croire en tout cas les gagnants de mon super mini-sondage du jour dans la rue.
Les entreprises qui font des efforts, surtout pour leur image.
Ils font ça juste pour nous attirer et nous donner envie d'aller chez eux.
C'est plus du marketing qu'autre chose pour moi. Le final, c'est le chiffre d'affaires. Et je pense pas qu'il y ait réellement une conscience écologique au sein de ces entreprises.
La grande distribution, aujourd'hui, on l'associe pas forcément avec le consommer local, la planète et tout. Ils ont quand même une image de grande consommation et de capitaliste et ils auront du mal à en sortir.
Idée reçue sur lesquelles a rebondi la semaine dernière le syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, Synadis, dans un clip sur internet, un homme en costume marche dans un verger.
Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. C'est vraiment très important pour nous de vendre du bio. Vous savez pourquoi ? Parce que ça rapporte énormément d'argent et que ça améliore notre image. Vous croyez quoi ? Qu'on fait ça par conviction ?
Et ça continue.
L'hiver, on fait pousser des tomates sous des serres surchauffées. On importe des fruits qu'on fait 3 fois le tour de la terre dans des jumbo jets qui crament des tonnes de kérosène.
Alors, ce syndicat regroupe des enseignes comme Biocoop, La Vie Claire ou Naturalia, qui appartient, faut le préciser, à Monoprix et donc au groupe Casino. Hein. Ouais. Ce qui a passablement agacé les concurrents comme Leclerc et Michel-Édouard, son patron.
C'est assez bizarre qu'on vienne nous demander qu'est-ce qu'on fait dans le bio, quoi. Je trouve que c'est bien les querelles de boutique tacler l'un pour dynamiser l'autre, mais aux enjeux aujourd'hui de la planète, à la mesure des enjeux de la planète, ces querelles n'ont pas beaucoup de sens.
Et vous avez rencontré Michel-Édouard Leclerc, Camille.
Et oui, il était la semaine dernière aux Assises du Bio avec tous les gros du secteur, pratique. Ouais. Il y avait Carrefour aussi, tiens, et son directeur du marché bio, Benoît Souris, qui se défend.
Même si nous sommes effectivement une grande entreprise, l'organisation que nous avons mise en place sur le bio, elle est faite pour être extrêmement décentralisée, extrêmement à proximité du monde de la production ou de la transformation. Toute notre difficulté, c'est de faire passer le message au consommateur que quand il vient dans un magasin spécialisé ou dans la grande distribution, il a en face de lui des produits qui répondent au même cahier des charges.
Donc votre riz bio acheté dans un hyper ou un magasin 100% bio, eh bien ce serait le même. D'ailleurs, au sujet de l'image du grand méchant, Monsieur Leclerc contre-argumente.
En quoi le fait d'être un grand distributeur empêche de vendre des vins de qualité, des produits de qualité? C'est une vision idéologique de quelques-uns, mais dans la réalité, c'est bien aux capitalistes et au capitalisme qu'on s'adresse, que les ONG s'adressent pour évoluer. Donc pourquoi dire qu'ils sont le diable et en même temps leur demander de faire évoluer la planète? Quel est le modèle anticapitaliste qui marche? Donc il ne faut pas opposer un système à un autre. S'il y a quelque chose de vertueux, il faut l'étendre, il faut le démocratiser.
Ça en baissant les prix, par exemple, pour le rendre accessible à tous. Comme ben, je les avais sous la main, Mathieu, j'en ai profité pour en savoir plus sur les marges supplémentaires qu'ils se feraient sur le bio. Et voilà ce que Carrefour m'a répondu.
La grande distribution, elle ne se fait pas plus de marge sur les produits biologiques que sur le restant. Alors je connais bien sûr toute la polémique qui existe sur ce sujet-là. Nous travaillons effectivement avec une politique de marge qui est extrêmement compressée sur les fruits et légumes biologiques. écologique comme sur le reste. Les bénéfices de la grande distribution sont bien moindres que ceux des industriels.
J'étais à deux doigts de pleurer.
Ben oui, mais est-ce que démocratiser les bio, Camille, comme le disait Michel-Édouard Leclerc, ça ne revient pas finalement à l'industrialiser ?
Eh ben, un peu, disent-ils, en ne voyant quand même pas le problème de la massification, puisque ces géants créent carrément leur filière ou investissent.
Nous avons aujourd'hui près de 1800 fournisseurs, c'est-à-dire des agriculteurs, des viticulteurs ou des éleveurs, qui sont engagés contractuellement avec Carrefour sur des durées longues.
Voilà, on imagine Benoît Souris de Carrefour presque les mains dans la terre. Tiens, du coup, avec tant d'investissements vers le mieux manger, dernière question Mathieu, j'ai quand même voulu savoir pourquoi. Mmh. Alors, ils continuent à vendre dans leur gigantesque magasin de la malbouffe, Michel-Édouard Leclerc.
L'idée, c'est de donner au consommateur le meilleur choix. Je ne peux pas lui imposer un mode de vie. D'ailleurs, il a raison. Donc, la question de la désaisonnalisation des fruits et légumes ou la question de l'importation, c'est le consommateur qui doit définir son comportement. La censure n'est pas une modalité pour moi.
La censure du Nutella ou du Coca ou encore de la fraise en hiver, mais dans quel pays vivrait-on franchement? Moi j'appelle ça juste ratisser large. Donc vous avez entendu, hein, surtout allez y faire vos courses, hein, comme eux d'ailleurs, qui les préfèrent au marché au passage, mais soyez responsables, bon sang.
Voilà, Camille passe au vert avec entre autres Michel-Édouard Leclerc, c'est à réécouter sur franceinter.fr et tout ça rime, c'est formidable.
Blanche Magarino, c'est un peu un paradoxe la grande distribution, parce qu'elle est à la fois à l'opposé du modèle de consommation réduite vers lequel on, en tout cas en ce qui concerne la planète, et elle peut également être un modèle puisqu'elle est utilisée aujourd'hui majoritairement par les Français quand même.
Oui, oui, c'est vrai, mais après on peut s'interroger sur les intentions qui sont réellement portées par ces très grands groupes. Moi j'ai eu une petite aventure en fait avec Carrefour, j'ai été très surprise de les voir se lancer dans une campagne sur les variétés anciennes avec la publication d'une pétition sur internet qui a récolté un peu plus de 80 000 signatures pour faire évoluer la loi sur le commerce des semences. Et puis ensuite quand il a été question de faire évoluer la loi Egalim en particulier, hein, qui a été votée l'an dernier, j'ai pris contact avec Carrefour pour leur dire mais voilà, vous avez l'occasion de mettre en pratique maintenant vos intentions. Vous avez le bras long certainement auprès des députés, des sénateurs et du gouvernement. Mettez un peu de pression maintenant, c'est le moment pour faire évoluer cette législation. Il y a justement dans l'article, dans la loi Egalim, un article qui concerne les semences et vous pourriez le soutenir. Et j'ai été très étonnée après de multiples relances qu'on me dise « ça ne nous intéresse pas ».
Oui.
Et donc Carrefour s'est complètement détourné de ce combat, alors même qu'il criait sur tous les toits. Hein, on a vu leur campagne très tapageuse passer juste après le JT.
Donc c'est de la vitrine pour vous.
Oui, je pense que oui, c'est de la vitrine en effet. J'ai pas l'impression que ce soit sous-tendu par des convictions réelles.
Et d'ailleurs, Cocopelli, ce type d'associations sont très très virulents par rapport aux bio-industriels. Hein. Ils font bien justement la distinction.
Ah, complètement, oui. Et c'est vrai qu'on a vu les grands groupes financiers investir massivement dans le bio. Je ne sais pas si c'est pour défendre un cahier des charges très très vertueux et très ambitieux.
Allez, on se retrouve dans un instant, Blanche Magarinoré, avec les auditeurs de la Terre au Carré pour parler donc des variétés de semences aujourd'hui.
Vous les pilles, ton CD est au vidange. Impossible ton paye des peanuts parce que mon gars j'ai des allergies. Non, j'ai plus la main des fucking hypocrites. Sorry, maman, j'ai vite les bactéries. Tout l'équipe est dans mon bac. Tout le Québec est dans mon bac. Je suis pour la paix pour une coupe de like. Fous-moi la paix, laisse-moi grimper le mic. Et l'ambigone en masque en Jamaïque. J'prends des vacances si le rap qui me le permet.
On veut toujours une plus grosse valise. Mais changerai pas l'accent, puis je porterai pas de béret.
Je les mots pour mon crew. With my D, I'm a D pour la vie. With it too, je les mots pour mon crew. With my D, I'm a D pour la vie.
What it do, je fais des movements. Juste le fait que t'écoutes, ça le prouve, man. Zay, zay, c'est le movement. Tu veux pas être dedans, c'est cool, man. Mais pense pas qu'on prend au sérieux. Ça talk shit sur Facebook, c'est plein de fautes. Tu sais pas parler, man, c'est fâche. Une écriture avant dans 10, donc. Tu trouves pas de Félix dans les chemins boueux. Fuck la 10 pour les baby boomers. Faut qu'il parle. Tout le monde en parle, sauf à tout le monde en parle. On avance, on calcule pas les kilométrages. On est motivé, peu importe les bad luck. J'donne tout pour l'album, j'évite ceux qui placotent.
Oh non, j'ai pas le temps à perdre avec les autres, yeah. Si tu veux voir ma bête, ben check mes photos. J'suis à propos de ma paix, j'vais win la loto. Oh 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 oh.
What it do, j'fais des moves pour mon crew. With my D, I'm a D pour la vie. What it do, j'fais des moves pour mon crew. With my D, I'm a D pour la vie.
Bono, c'était Fouki à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Blanche Magarino serait notre invitée, avocate au barreau de Paris, spécialiste donc du droit de l'environnement, avec un livre Semence hors la loi, la biodiversité confisquée. Mais attention, chez Manifesto, c'est sorti en 2015, donc il faudrait presque le réactualiser aujourd'hui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, sur le front des semences.
Oui, tout à fait, oui. Il faut réactualiser cet ouvrage. Oui.
Alors, beaucoup de questions au standard par mail également, Camille.
Oui, par mail, Marc qui nous dit merci de ne pas parler que de Coco Pelli. Il y a plusieurs entreprises artisanales semencières qui comptent moins de salariés et de chiffre d'affaires que cette association, qui trop souvent tire la couverture à elle, semaille, germinance, graines del pays, biogerme. Merci pour votre intégrité.
Coco Pelli étant vos clients, on le rappelle. Hein.
Oui, mais pas seulement en fait. J'ai d'autres clients dans le secteur semencier, à vrai dire. Donc
pourquoi vous parlez que d'eux alors?
Mais disons, bon, c'est un peu vous qui m'avez interpellé sur Coco Pelli, à vrai dire. Donc c'est une association qui est très connue parce que elle a connu tous ces démêlés judiciaires. Mais il est vrai qu'il y a d'autres associations, d'autres petites entreprises. Coco Pelli a beaucoup prospéré, c'est vrai, sur la base de ses aventures judiciaires. Et donc aujourd'hui, on lui reproche d'avoir bien grossi, d'avoir un gros chiffre d'affaires, beaucoup de salariés, etc.
On n'aime pas ça en France.
Voilà, dans certains secteurs, dans certains milieux, on n'aime pas beaucoup ça. Mais il y a plein d'autres associations qui font un travail magnifique. Vous en avez cité certains, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Les Jardins de Tantugou, l'association Les Mille Variétés Anciennes, le conservatoire de la ferme de Sainte-Marthe.
Et des agriculteurs. Des agriculteurs, il faut quand même le dire aussi. Hein.
Exactement, des agriculteurs. Il y a par exemple Roland Feuillas qui fait un pain merveilleux et qui travaille avec un grand réseau d'agriculteurs qui conservent des variétés traditionnelles de blé magnifiques avec des super qualités nutritionnelles. Donc oui, il y a plein d'autres acteurs.
Allez, on va au standard où nous attend Jacques. Bonjour à vous, Jacques.
Bonjour. Alors moi, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est comment se fait-il que le grand syndicat agricole, bon, on sait qu'il est à la botte de l'agro-industrie, mais comment se fait-il qu'il ne s'est pas battu pour ses agriculteurs, pour qu'ils puissent simplement produire leurs propres semences pour nourrir leur bétail plutôt que d'acheter des semences où il faut toute la chimie, la phyto, et en même temps il y avait toute une richesse au niveau de la biodiversité, par exemple on avait des maïs en France qui existaient depuis plus d'un siècle, qui étaient semés dans certains coins de même en région de montagne, moyenne montagne, et c'est ça qui est alors que la demande des agriculteurs c'est bien ça, c'est de pouvoir nourrir eux-mêmes leurs bêtes avec les semences, enfin avec les graines qui produisent leur blé, etc.
Alors voilà. Blanche Magarino-Ray, quelle est finalement la plus-value d'une semence au rendement comme celle qu'utilisent justement les grands semenciers?
Bon, c'est devenu un secteur très lucratif, en effet. La nature étant très généreuse, vous semez une graine et puis vous en obtenez plusieurs milliers à la sortie. C'est un secteur qui est devenu lucratif et qui a concentré les investissements capitalistes. Après, dans le secteur strictement agricole, il y a des coopératives agricoles qui se sont engagées dans la production de semences, dans la création variétale aussi. Je pense à la coopérative Limagrain, par exemple. Et puis, de grands groupes capitalistes qui ont investi aussi dans les petites entreprises semencières, ces coopératives agricoles. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ce sont les mêmes acteurs qui vendent les semences, qui vendent les intrants, qui font de la production, qui font de la création variétale. Voyez. Et donc, se demander pourquoi la FNSEA n'a pas promu une certaine autonomie semencière. En fait, ce sont les mêmes acteurs, quelque part, qui se sont rachetés les uns les autres et qui, aujourd'hui, font de la création variétale, font de la production de semences, puis vendent la semence aux agriculteurs et puis vendent aussi les intrants qui vont avec la semence aux agriculteurs. Donc, les agriculteurs, en fait, ils sont un peu pris en tenaille entre leurs coopératives agricoles qui ont intérêt à leur vendre le package technologique et puis l'industrie semencière, qui sont souvent les mêmes.
Eric nous dit, je voudrais jardiner et j'ai effectivement envie de semences solides et biologiques, mais où les trouver alors auprès de toutes ces associations dont vous avez parlé, qui ont le droit de nous les vendre en tant que particulier ou pas ?
À l'heure actuelle, non. Donc ça va faire l'objet d'une évolution législative, on l'espère. Hein. On va peut-être en reparler entre nous. Mais donc, oui, il faut... on a accès à ces variétés-là grâce à des opérateurs qui se mettent hors la loi, qui sont un peu dans la clandestinité, qui bénéficient ou pas d'une certaine tolérance de la part des autorités.
Donc c'est
sous le manteau. Ce sont des acteurs associatifs, de petites entreprises qui sont souvent ennuyées. Voilà. Donc et puis aussi des réseaux d'agriculteurs de temps en temps, mais c'est très marginal encore.
Alors, on a Lise sur l'application France Inter qui demande, puis-je à titre individuel demander l'inscription d'une variété au catalogue ou est-ce réservé aux industriels ou aux agriculteurs? Et Émilie également sur l'application qui demande comment contribuer à compléter le catalogue en parlant d'un héritage de sa mère qui a hérité de ses parents de vergers d'arbres anciens. La saveur de leurs fruits est sans comparaison avec ce qu'on trouve dans un commerce même bio. Comment on fait?
On ne peut pas, en tant qu'individuel, demander l'inscription d'une variété, d'un fruit ou d'un légume au catalogue. Il faut être un opérateur professionnel et je peux vous dire qu'il faut avoir...
Parce qu'il y a beaucoup de critères auxquels il faut répondre. C'est ultra compliqué.
Il faut avoir les reins solides, une bonne bourse aussi, parce que ça coûte très cher. Ouais. Et donc, un particulier n'a absolument pas les moyens de faire face à une procédure d'inscription d'une variété au catalogue.
Alors, du point de vue législatif, du côté de la France et du côté de l'Europe, en deux minutes, s'il faut résumer ce qui se passe aujourd'hui, puisque effectivement, autour de la loi Egalim, il y a du nouveau là aussi. Hein.
Oui,
c'est des allers-retours. Hein. C'est vraiment montagnes russes, la loi Egalim. Hein,
ah oui, la loi Egalim. Et puis, en fait, ça date même de la loi biodiversité avant. Donc, il y avait déjà dans la loi biodiversité un article qui permettait la commercialisation de semences de variétés non inscrites au catalogue à des utilisateurs non professionnels, donc des jardiniers amateurs.
Donc c'était plutôt une bonne nouvelle.
Qui était plutôt une bonne nouvelle. Puis le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition. Puis cette disposition a refait son apparition dans la loi Egalim. Et puis ensuite le Conseil constitutionnel a encore une fois invalidé cette disposition en disant qu'elle était contraire à la Constitution. Et aujourd'hui, donc, on a eu un grand nombre de députés, de la majorité, de l'UDI, mais aussi de la France Insoumise, qui ont déposé des propositions de loi pour que cette disposition soit revotée. Et cette proposition de loi, donc, elle a été déposée en mars de cette année et elle a été mise à l'ordre du jour là tout récemment et elle sera discutée dans l'hémicycle début décembre.
Plutôt bonne nouvelle. Camille, très
question
vite.
Question Julie, et quel rôle pouvons-nous jouer en tant que consommateurs pour défendre le maintien d'une diversité des semences ?
Alors, je pense que là, maintenant, à partir de 2021, comme on l'a dit tout à l'heure, une fenêtre a été ouverte dans la législation qui concerne la production biologique. Maintenant, les consommateurs vont pouvoir aller voir leurs fournisseurs, les paysans et même les magasins, les distributeurs, et leur demander de mettre plus de diversité à l'étalage. Et ça a été rendu possible par la législation. Et donc, c'est vrai que maintenant, l'appel d'air, il doit venir des consommateurs.
Voilà. Les consommateurs doivent les demander. Il faut arrêter de vouloir des fruits et des légumes absolument parfaits.
Ah, exactement.
Hein,
Exactement.
Hein. Il faut accepter aussi d'autres choses.
Voilà,
ça c'est la diversité biologique.
Tout à fait, ça commence par les consommateurs.
Merci Blanche Magarino-Sray. Donc ce livre Semences hors la loi, la biodiversité confisquée, est publié chez Manifesto.
Sa terre. La terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Noël, un auditeur du Haut-Doubs qui est président de l'association Les Gazouillis du Plateau. On va tout savoir dans un instant. Et puis enfin notre invité découverte est le photographe Francis Latrey qui publie un beau livre Les Derniers Peuples des Glaces aux éditions Gallimard. Mais pour le moment, nouveau reportage de votre série consacrée cette semaine au GCO. Guy Vanctil, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce chantier autoroutier alsacien de 24 km et 550 millions d'euros qui n'en finit pas de déchaîner les passions.
Oui. Ce grand contournement ouest de Strasbourg est en train de sortir de terre en ce moment même, malgré des années de lutte des habitants et d'associations qui n'ont eu de cesse de dénoncer ce projet bétonneur qui ne réglera, semble-t-il, ni les problèmes de circulation, ni de pollution de Strasbourg. Alors je vous propose la suite de portraits de ces habitants mobilisés pour leur environnement et qui ne voient plus la politique de la même façon. Certains les disent même radicalisés. Alors aujourd'hui, rencontre avec la pasteur du village, qui a elle aussi pris part à la bastaille, mais on commence chez une des stars de Colpsheim, Germaine, la zadiste nonagénaire.
Elle est devenue l'une des figures de la fronde anti-GCO.
Germaine Schell ist in der Stürstelksee de GCO de Grand Contournement Ouest Fuchstrausburg.
Toujours cette même affiche qu'on voit sur toutes les maisons du village qui dit tous unis contre le GCO, le Grand Contournement Ouest. Et c'est chez madame Germaine.
Germaine habite aujourd'hui seule dans cette ancienne ferme de Colpsheim.
Bonjour.
Infatigable, cette grand-mère de 6 petits-enfants veut être en première ligne avec son déambulateur face aux forces de l'ordre.
Je fais ce que je peux. Hein? Je m'appelle Germaine Jacqueline. Germaine, ça me convient. Je suis vraiment une fille de paysan. On avait des poules, on avait des canards. Près d'Abrèche-Huillère, vous voyez, moi, je suis vraiment une fille de la campagne. Hein.
Et alors, vous êtes la révolutionnaire du village, si j'ai bien compris.
Oui, je suis une zadiste, moi, oui. J'ai fait de la révolution ici, en bas, dans la ZAD, pour défendre notre terre, notre belle Alsace, qu'on est en train de détruire complètement. Il ne reste plus rien. Les chênes centenaires sont partis, tout est parti. Il n'y a que des travaux, vous voyez, que des montagnes de terre. Tout est détruit. Parce que les autoroutes passent partout maintenant. Partout, parce que l'argent, c'est la bourse qui compte. Moi, j'ai remarqué ça avec nos élus. Hein. Un élu, il n'a rien à dire. Ils sont rien du tout à côté de ces multinationales qui commandent. Oui, voilà.
Là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous n'avez pas l'air content contre Vinci, c'est ça? Mais ça, c'est l'expérience de la mobilisation autour du grand contournement qui vous a amené à cette position politique.
Oui, surtout, oui. Depuis la ZAD, depuis cette révolution que nous avons eue pour défendre cette forêt, il faut continuer, c'est ce que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit, moi, le plus grand plaisir, c'est quand je vais aux manifestations. Je me sens bien avec les jeunes.
Vous n'avez pas peur des fois?
Non, moi j'étais gazée, hein. Je sais ce que c'est, mais bon, ça ne me fait pas peur.
Parce que moi j'ai vu des photos, des vidéos de vous et tout. Vous êtes avec votre déambulateur là, qui est là dans le salon.
Ah oui, j'étais.
Mais vous étiez quand même là devant, en première ligne.
Oui, j'étais devant. Oui, j'étais avec notre maire.
Quitte à prendre des risques, comme lundi, quand à l'aube, les forces de l'ordre ont investi la ZAD. J'ai de lacrymogène. Germaine était assise en première ligne.
Et surtout qu'on a été maltraités. C'est inadmissible. Ils se sont battus contre cette ignoble autoroute.
Vous avez pris goût à la castagne.
Ah oui. Écolo radical, oui. Ça, c'est vrai. Je suis une révolutionnaire à fond maintenant. À 90 ans, je continue. Bonjour madame la pasteur.
Bonjour.
Régulièrement, elle reçoit la visite de la pasteur de la commune, très engagée elle aussi contre le GCO.
Oui, oui.
Je m'appelle Caroline Ingrand au fait et je suis pasteur de Kolbsheim et de quelques villages environnants depuis bientôt 10 ans.
Et là, on se retrouve ici, c'est...
La cour du presbytère, que les zadistes appelaient le presbytère, et donc qui a été un peu leur lieu de refuge, où ils venaient pour l'eau, pour se faire un café, pour Internet.
C'est pour ça que ça ressemble pas du tout à un presbytère, a priori, parce que ça ressemble vraiment à une zad, parce qu'il y a ici tout un tas de panneaux, d'affiches, de pancartes. Alors celle-là, elle dit quoi ? GCO ?
Un autre monde est possible, et le mot possible est barré et marqué urgent dessous. Semons les graines de la résistance, et changeons le système, pas le climat. Donc c'est la trace de ce vécu incroyable qu'on a eu ici depuis 2 ans, vraiment où il y a eu une rencontre entre des mondes qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Ici, il y a vraiment eu cette cohabitation, un peu à l'ancienne par moments, où quand il y avait un peu des soucis à la ZAD, on venait chercher le maire et le pasteur pour...
Le maire et le pasteur du village, tranquille d'Alsace, qui n'était pas connu non plus pour être un village de dangereux séditieux, qui se retrouve à mener des actions contre une multinationale et à faire une désobéissance civile contre un projet en construction. Oui. Je pense tout de suite à Don Camillo.
Oui, heureusement que c'est une pasteur femme, comme ça fait un peu moins cliché, mais avec mes convictions écologistes.
Oui, parce que vous n'êtes pas vraiment dans votre rôle de pasteur en faisant de l'agitation politique.
Alors ça dépend de la conception du pasteur qu'on a. Mais disons que moi, je partage vraiment leur remise en cause assez fondamentale, en fait, de choix de société. Et ça paraît très étrange à certains, mais au nom de mes convictions chrétiennes, vraiment, il y a beaucoup de ce qu'ils défendent d'une société non-violente, voilà, où on remet la personne au centre, où on remet le local au centre. Enfin, tout ça me paraît extrêmement juste. Je leur tire mon chapeau là-dessus et pour ça, j'ai beaucoup appris d'eux.
J'ai l'impression que, comme pour Germaine, vous êtes en pleine voie de radicalisation.
Si l'Église, ça peut être ça, un lieu de communion, de lutte, ben, amen, quoi.
Voilà, où on en est arrivé, Mathieu, des villageois radicalisés. Alors demain, on continue notre galerie de portraits sur le long de l'autoroute en construction, dans la forêt du Krietwald, cette fois-ci, ou plutôt de ce qu'il en reste.
Et dans le podcast Give sur la page de La Terre au Carré, on peut entendre une chanson en intégralité en hommage à Germaine Debout. Donc on va sur franceinter.fr. Merci beaucoup, Give, à demain.
À demain.
France Inter. La Terre au Carré. Vos solutions pour la planète.
Et si nous partions pour le Haut-Doubs, Camille ?
Allez, on y va.
Près de la Suisse, retrouvez Noël qui est en ligne avec nous. Bonjour Noël.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Mèche, près de Montbéliard et Morteau, et vous êtes conteur et président de l'association des gazouillis du plateau. Alors moi déjà, j'adore votre nom. Ouais. De quoi il s'agit ?
Merci. Bon, bah, c'est une association de naturalistes là qui œuvront sur le plateau de Mèche, vallée du Doubs, vallée du Dessoubre. Et notre action, bien, c'est surtout de faire... du comptage d'oiseaux, de faire des inventaires de faune, de flore, pour participer à des atlas, l'atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, de France, de Franche-Comté. Voilà, et puis notre deuxième mission, c'est d'essayer de faire l'éducation à l'environnement, d'essayer de sensibiliser les gens de notre secteur, voilà, à la nature qui nous entoure, leur faire découvrir nos richesses du plateau. Là.
Et alors Noël, comment vont la faune et la flore autour de vous ?
Pas trop bien, si vous voulez, un petit peu comme partout. Notre association, par exemple, on participe depuis plus de 30 ans pour faire des atlas. Et on a un carré que l'on surveille depuis une trentaine d'années. Et on s'est aperçu là au cours du dernier atlas auquel on a participé, là pour les oiseaux nicheurs de Suisse, là, puisqu'on est juste avec la frontière suisse. Et bien donc ce secteur-là, les oiseaux ont eu une chute d'à peu près 13% en nombre, quoi. Pas en diversité, mais en biomasse en quelque sorte. Voilà.
Donc ça, c'est l'avifaune pour les oiseaux.
Oui, oui, au départ, on était plutôt des ornithologues, c'est pour ça qu'on s'est appelé les gazouillis du plateau.
Alors Noël, justement, pourquoi ça gazouille et pourquoi sur les plateaux? Et quelle est votre action exactement? Alors qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que ça aille mieux?
Eh ben, disons que là, en s'inspirant de l'initiative qui a eu lieu sur la Finlande, où en 2017, une grosse association nationale finlandaise a proposé à l'ensemble de la population de mettre à peu près 100 000 nichoirs sur le territoire national. Donc les Finlandais ont répondu très positivement, puisqu'en une année, ils en ont posé 1 million de nichoirs.
Ouf.
Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas dans notre petit coin là, on pourrait pas solliciter la population locale. Et donc c'est ce qu'on a fait là le 12 octobre dernier. On a lancé une opération avec la communauté de communes du secteur, là, la communauté de communes du Pays Méchois. Donc on a proposé une action qui s'appelle « Sauvons notre biodiversité et faisons 1000 actions pour la nature sur notre secteur ».
1000 actions, alors par exemple.
Eh ben, disons qu'on sollicite les gens pour que chez eux, eh bien, ils installent un nichoir à oiseaux, un nichoir à chauves-souris, enfin n'importe quoi, un gîte à hérissons, plutôt favoriser, laisser un bout de sa pelouse non tondue pour favoriser les insectes, mettre un nichoir à insectes, enfin etc. Toutes des actions comme ça. Et donc on demande aux gens donc qui font ces actions chez eux de nous le signaler. On inscrit ça sur une carte sur notre site internet de l'association et comme ça on aimerait essayer d'arriver le plus rapidement possible à 1000 actions pour la communauté de communes du Pays Méchois.
C'est une super idée, Noël, et ça prend ou pas alors? Est-ce que vos camarades...
Ça fait un peu plus d'un mois, ouais.
Pardon ?
Il y a des résultats déjà ou pas ? Ça prend bien ?
Oui, ça. Le 12 octobre, quand on a lancé ça, on a été bien surpris parce qu'on a eu plus de 200 visiteurs qui sont venus sur ces 3 heures d'animation là. Mm-hmm. Et puis, pour l'instant, là, on est à peu près à 120 actions qui ont été réalisées sur notre secteur. Mais donc, on est encore loin des 1000. Mm. Donc, il va falloir prendre notre bâton de pèlerin et puis on va aller un petit peu comme ça. De village en village, faire des animations, des soirées, expliquer le but et l'utilité justement de toute cette petite faune, de tous ces oiseaux qui gravitent autour de chez nous et puis qui nous aident aussi à se débarrasser peut-être d'insectes un peu indésirables ou autres, mais bon, tout est utile dans la nature quand même.
Vous allez voir, Noël, je suis sûr qu'après votre passage dans la Terre au Carré, vous allez avoir au moins un ou deux nichoirs en plus.
Au minimum.
Ça, c'est sûr.
Enfin, minimum.
J'espère.
Un petit gîte à hérissons.
Oui, absolument. Vous avez déjà des retours sur les résultats? Est-ce que immédiatement, vous avez plus d'oiseaux ou d'insectes qui viennent dans les jardins? Est-ce que vous avez déjà un peu de recul ou c'est trop tôt là?
Alors, c'est un peu trop tôt là, hein. Ça fait un mois qu'on a démarré l'opération. Non, je pense qu'on verra les choses d'ici un ou deux ans, mais je pense qu'il devrait pouvoir avoir des retours positifs. Surtout qu'en plus, nous, on va essayer aussi de mobiliser les communes en général. Là, justement, vendredi dernier, on a eu une réunion avec la mairie de Mèche, qui va s'engager fortement sur un beau parc public qu'ils ont là, sur une mare qui est juste en limite de la commune. Enfin, donc, si les communes aussi se lancent dans des idées, par exemple laisser un coin de forêt communal en sénescence, réhabiliter, quand on réhabilite un bâtiment, penser aussi à la faune, à la flore, en y intégrant des nichoirs pour le martinet, enfin des choses comme ça, ça peut aller très loin, hein, ça peut aller très loin.
Vous, Noël, chez vous, vous avez mis un nichoir ou un petit gîte à hérisson ou encore autre chose?
Voir les deux.
Disons que là, chez moi, j'ai planté une haie vive tout autour de chez moi. Là, justement, je suis devant la fenêtre et il y a plein d'oiseaux. Là, justement, juste en face sur la branche, là, il y a un pinson du Nord qui est là. Et puis, donc, j'ai un nichoir pour l'instant, mais je vais mettre ce qu'il faut. Ouais, faut montrer l'exemple.
Ah bah oui, hein.
Il faut battre les Finlandais, Noël.
Le million. Alors, c'est pas...
C'est ça, absolument. On faut faire mieux qu'en Finlande. Bravo en tout cas pour cette initiative. Les gazouillis du plateau, vous avez un site internet que Chantal Le Montagnier a mis évidemment en lien sur la page de la Terre au Carré pour tous ceux qui souhaitent dans le Houdou et même ailleurs, parce qu'il faut que ça fasse des petits bébés ailleurs.
Voilà,
je trouve que c'est une très bonne idée.
C'est un peu l'idée que, en passant sur votre antenne, qu'il y a d'autres secteurs français qui puissent se lancer dans ce type d'opération.
Bon,
ce qu'on souhaite surtout, c'est que justement, c'est que ça soit une mobilisation citoyenne. Ça rapproche aussi les gens. Et vendredi dernier, justement, une des personnes me disait qu'elle avait construit tout un après-midi des mangeoires et des nichoirs avec sa famille, avec ses enfants, et que ça avait été un superbe moment pour eux. Donc, c'est aussi une opération qui crée du lien familial, mais aussi entre les voisins, etc.
Merci, Noël. Et puis, donnez-nous des nouvelles. Ça nous intéresse de savoir comment ça se passe dans votre région aussi, pour voir si ça prend bien, d'accord?
Oui, début de printemps, on essaiera de faire ça.
Voilà. Avec plaisir.
Objectif 1000. Merci, Noël.
À bientôt.
Merci à vous de nous avoir accueillis sur votre antenne. Merci.
À bientôt, bonne journée. Les derniers peuples des glaces, c'est un beau livre qui sort aux éditions Gallimard. On en parle avec son auteur photographe Francis Latreille dans un instant. The lace lady, travel with grace baby. I can't afford-
afford to cover the course. Of course, maybe you settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. It's basic, past credentials, but understand your favorite rapper, peep my gold potential. I'm out of shame, been past it, trying to fit the circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip, just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic, young veteran, new classic. Now I knock the walls off, the whole key we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it, it's life after death. Roll the credits. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back design, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh on my flesh. Greatness in me, you can't make me feel less. Less hold, I'm not impressed. Best smoke on my effort like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. What they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Final Form avec Sampa the Great. Et si jeudi soir on se retrouvait au cinéma avec Demain Notre Planète, la première conférence du nouveau cycle de France Inter autour de l'environnement et de l'écologie. C'est donc jeudi 21 novembre à 20h en direct donc de la Maison de la Radio et dans l'une des 150 salles de cinéma certainement près de chez vous. Si par exemple vous habitez Angoulême, Agen, Manosque, Saint-Nazaire, Avold, Saint-Avold, Paris ou Dunkerque, eh bien il y a une salle de cinéma pour assister à la soirée, pour évoquer cette question: comment changer pour amorcer la transition écologique. Et on va en discuter avec Hubert Reeves, Cynthia Fleury, Valérie Cabanès et Aurélien Barraud.
Je viendrai vous voir.
Merci Camille. Vous pouvez réserver les dernières places disponibles pour les salles de cinéma en allant dès maintenant sur franceinter.fr. Donc à jeudi.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Mais en attendant, nous accueillons Francis Latreille. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes photographe et mammouthologue, je pourrais dire ça aussi, non?
Oui, quelque part, j'ai un peu sévi dans le monde des scientifiques qui trouvaient ces fameux mammouths et tous les autres animaux préhistoriques dans la toundra sibérienne. Oui.
Absolument.
Pour Yakoutie surtout, oui.
Et votre livre en est la preuve, Les derniers peuples des glaces aux éditions Gallimard, avec une préface d'Eric Orsena. Un livre donc qui nous emmène à la rencontre des populations du Grand Nord. Ça fait combien de temps, vous, que vous visitez ces régions?
Ça fait depuis 87. La première expédition que j'ai fait, je suis parti avec Jean-Louis Etienne au pôle Nord Magnétique en 1987. Ouais. J'étais accompagné, ça a été un peu mon parrain polaire qui m'a fait découvrir ce monde un peu lointain, mais finalement qui n'est pas si loin que ça, ouais. qui est proche de nous. Quand on parle du pôle Nord, pour l'inconscient des gens, c'est la Lune. Mmh. Alors que vous allez à Marrakech, vous avez l'impression que c'est pas très loin. Vous allez au cercle polaire, le cercle polaire est plus près de Paris que Marrakech. Mmh. Donc on a l'impression que le Grand Nord, c'est très très loin. Non, il est à notre porte.
Oui, donc c'est très accessible, évidemment. Mais oui. Pour autant, ce sont des populations, des peuples qu'on connaît peu. Hein.
Bien sûr, parce qu'ils sont peu. Difficiles d'accès souvent, surtout les peuples de la toundra sibérienne. Mmh. Et c'est quand même assez compliqué de les rejoindre. Maintenant, il faut encore des nouvelles autorisations. Le FSB russe a remis des permissions pour toutes ces régions. Donc effectivement, le tourisme n'est pas prêt de se développer encore massivement. dans ces régions-là.
Vaut mieux pas peut-être d'ailleurs pour préserver les lieux.
C'est sûr, le tourisme de masse, c'est pas très bon pour la culture de tous ces peuples.
Alors ce sont des portraits et ce sont justement des découvertes de ces populations dont on pourrait d'ailleurs entendre quelques noms. Comment ils s'appellent tous ces peuples?
Vous avez les Dolgan, les Nénètes, les Tchouches, les Koryaks, les Yakouts, les...
Dolgan.
Les Dolgan, oui. C'est un peuple qui est très très nord dans la péninsule du Taïmyr. C'est une pointe au milieu de la Sibérie, c'est une pointe qui monte vers le pôle nord. Et donc ils vivent encore de façon ancestrale. Et ils étaient encore 250 à nomadiser dans la toundra de cette péninsule du Taïmyr vers l'an 2000. Et là actuellement ils sont plus qu'environ quelques dizaines, c'est d'ailleurs 60 ou 80 à nomadiser.
Au total ou par...
Au total, oui.
Ah oui,
ils sont vraiment...
Donc il y a un peuple, ils peuvent être presque deux en fait.
Oui, les Dolgan sont en gros à peu près 6 à 7 000 encore. Mmh. Ils ont tous été plus ou moins sédentarisés au fil du temps.
D'accord.
Donc ils sont dans les banlieues des villages. Ce sont plus des villages que des villes.
Ils élèvent toujours des rennes, les Dolgan en particulier?
Absolument, c'est leur... l'élevage de rennes, c'est leur culture. Donc vous avez... par exemple, dans tout ce qui est Inuit, c'est la civilisation du phoque. Et tout ce qui est sibérien, c'est plus la civilisation du renne. Le renne, c'est leur matière première, comme on dit. Ils utilisent le renne pour la viande, pour la peau, pour les tendons, pour faire des vêtements. Enfin, tout est exploité dans le renne. Ouais.
Alors, vous dites justement, au sujet des Dolgan, que ce sont des populations extrêmement fragilisées. Et les gaziers, les pétroliers, participent à cette fragilisation perverse, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, tous ces terrains sont ouverts aux convoitises de ces grands sociétés qui sont les gaziers, les pétroliers. En Sibérie, c'est Gazprom qui exploite le gaz et qui a entrecoupé toute la toundra sibérienne de gazoducs, qui fait que la transhumance des rennes n'est difficilement possible.
Donc, ça change comment leur vie quotidienne, ce réchauffement climatique et ces
multinationales ? C'est-à-dire que toutes ces personnes qui vivent dans la toundra maintenant sont plus ou moins effectivement impactés par ces problèmes et ils vivent de plus en plus dans les villes. Les enfants sont scolarisés pendant 9 mois dans les internats. Avant, c'est des internats un peu rustiques. Maintenant, les internats pour ces enfants, ils sont financés effectivement par les gaziers et les pétroliers.
Ah ben c'est important ça, effectivement.
Et vous avez toutes les technologies modernes, donc ils touchent le monde d'internet.
Donc ça bouleverse tout finalement.
Ah ben, ils n'ont plus envie de revenir dans la toundra. Ouais. Les jeunes femmes n'ont plus du tout envie de vivre la vie de leur maman. La vie de leur maman, c'était de couper du bois. On compte le nombre de bûches qu'il faut pour l'hiver. Et quand il fait moins 50, moins 60 dans les balocs, il faut un certain nombre de bûches pour chauffer. C'est-à-dire que il faut faire fondre de l'eau pour manger. Donc il faut faire...
Donc l'élevage nomade de rennes, c'est terminé pour cette génération. Il en veut plus.
Ce sera très difficile. Ou ce seront des entreprises qui seront, je pense, un peu plus industrielles, je pense.
Il y a cette photo incroyable, puisqu'on parlait de mammouth tout à l'heure, d'un enfant, c'est en Sibérie aussi, avec un bébé mammouth qui a fait la une des journaux, c'est Louba, qui a 36 000 ans, c'est ça,
ouais,
et qui était ressorti des glaces, et on voit ces deux portraits d'enfants finalement, l'enfant mammouth et l'enfant humain.
Et oui, c'est formidable, c'est un nénette qu'il a trouvé dans la péninsule de Yamal. Et il était avec son fils, et donc cette découverte est extraordinaire, parce que ce bébé mammouth est intact. Et d'ailleurs, quand on a fait l'autopsie à Saint-Pétersbourg de ce bébé mammouth, dans l'intestin de la maman, dans l'intestin de ce bébé, on a trouvé le lait de la maman, qui avait 39 000 ans.
Incroyable.
Donc c'est un voyage dans le temps extraordinaire, parce que en analysant toutes ces particules de lait, on peut découvrir tout le biotope de l'époque.
Oui. Il y a ces portraits magnifiques dans le livre en pied, avec ces costumes évidemment toujours utilisés par ces populations. On n'est pas du tout dans le folklore.
Non, pas du tout. C'est leur tenue traditionnelle. Ils font leurs vêtements en peau de renne ou en peau de phoque. Donc, et c'est je promène avec moi une immense bâche de studio que j'accroche dans la toundra comme je peux, qui est calé souvent avec des morceaux de glace, et je photographie ces gens qui sont souvent volontaires pour venir se faire photographier.
Pourquoi vous les photographiez? Qu'est-ce que vous leur dites d'ailleurs quand vous les prenez en photo? Ça va servir à quoi? Quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce livre et ces photos?
Non, je les trouve beaux, donc je sollicite une séance photo. Ceux qui sont volontaires, ils viennent. Alors, ils sont un peu un peu timide au départ, donc il y en a un, deux qui viennent, et après vous avez toute la... on échange beaucoup par geste, parce qu'ils parlent pas nos langues, ils parlent tout juste le russe, donc on échange par geste, par dessin, et j'explique, je montre des photos que j'ai déjà faites, et je leur envoie les photos régulièrement.
Il y a les Sams aussi, hein, ce
les
peuple
Sam,
des Sams.
Tout le nord de la Finlande, de la Laponie. Suède, tout ce qui est Laponie, oui.
Et il y a une photo à Rovaniemi, ça vous dit quelque chose?
Rovaniemi, c'est le village du Père Noël.
Oui, ce sont les reines du Père Noël.
Effectivement. Qu'est-ce que ça donne, d'ailleurs, ce village? C'est agréable à visiter, ou ça devient vraiment un folklore là-bas?
C'est un grand folklore. Mais la Finlande, c'est devenu un grand folklore. Parce que là, il y en a tous un tourisme de masse, malheureusement, qui s'est développé au niveau de Rovaniemi, parce que les Chinois ont trouvé ça formidable d'aller faire des câlins sous les aurores boréales. Il paraît que ça porte bonheur. Donc, nos amis finlandais, ils ont trouvé l'astuce de faire des igloos chauffés
directement là-bas,
transparents. Ouais. Comme ça, on peut faire les choses sous les aurores boréales.
Francis Latraille, Les derniers peuples des glaces, c'est chez Gallimard, préface d'Éric Orsenna. Vous serez d'ailleurs avec lui ce soir dédicace.
Oui, bien sûr, oui. Il m'accompagne.
Rue Richelieu, c'est ça?
75 rue de Richelieu.
Voilà, pour ceux qui souhaitent vous rencontrer et découvrir vos images magnifiques. Merci beaucoup d'être venu en parler aujourd'hui dans La Terre au Carré.